Décryptage. Sophie Pouzerat.
C'est un match retour scruté avec attention pour la deuxième fois. Joe Biden et Donald Trump vont s'affronter dans l'élection présidentielle américaine. Prévue en novembre, le président sortant démocrate se retrouve face à l'ancien président républicain. Et tous les deux sont champions de leurs partis respectifs pour la course à la Maison-Blanche. Mais de nombreux paramètres ont changé depuis leur dernier duel en 2020. Conflit à Gaza, droit à l'avortement, affaires judiciaires. Joe Biden comme Donald Trump ont chacun leur lot de défis à relever jusqu'au scrutin de novembre. Et on en parle ce soir dans le décryptage. Et pour en parler avec nous, André Caspi est en ligne ce soir. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien, spécialiste de l'histoire des États-Unis. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, l'affiche de cette campagne, à savoir Joe Biden face à Donald Trump, elle ne surprend pas vraiment. Pour Joe Biden, on s'attendait à ce qu'il se représente, c'est de tradition pour un président sortant. Mais ça ne réjouit pas forcément les électeurs démocrates.
Eh bien, écoutez, les électeurs démocrates sont plutôt sceptiques à l'égard de Joe Biden parce qu'ils lui reprochent deux choses. La première, tout d'abord, c'est son âge. C'est-à-dire qu'au fond, si Joe Biden était réélu, cela voudrait dire qu'il sortirait pour la deuxième fois de la Maison-Blanche à l'âge de 86 ans. C'est en somme un record, car aucun président des États-Unis avant lui n'a atteint cet âge canonique tout en exerçant les fonctions suprêmes dans la vie politique des États-Unis. Et puis la deuxième chose que l'on reproche à Joe Biden au sein du Parti démocrate, c'est sa politique extérieure et tout particulièrement ses relations avec l'État d'Israël et sa gestion de la guerre à Gaza.
Une gestion sur laquelle on va revenir, bien sûr. Également avec nous ce soir, Guillaume Nodin est en ligne. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir Sophie, bonsoir à toutes et à tous.
Vous êtes en direct depuis Washington, vous êtes notre correspondant pour RFI. Vous suivez également la campagne présidentielle. Et sur le terrain, vous avez notamment parlé avec des républicains qui ne voulaient pas de Donald Trump. Ils lui préféraient ses anciens rivaux, Ron DeSantis ou Nikki Haley. C'est le cas de Patrick Wall que vous avez rencontré, on l'écoute.
Je veux quelqu'un qui n'est pas Trump. N'importe qui n'est pas Trump, mais je pense que notre pays mérite mieux. Je veux quelqu'un que nos enfants peuvent respecter. Je crois que ce n'est pas Trump.
Alors lui, il votait pour Nikki Haley, mais c'est Donald Trump qui sera le candidat républicain pour cette élection. Est-ce qu'ils sont nombreux chez les républicains à ne pas se réjouir d'avoir Donald Trump comme candidat et est-ce qu'ils sont résignés à présent? Est-ce qu'on peut dire ça?
Écoutez, publiquement, il faut quand même dire que cette position que vous venez d'entendre, celle de Patrick Wall, que j'avais rencontré lors du vote pour la primaire républicaine du district de Columbia, cette position, elle est minoritaire. Mais c'est une minorité importante dans le parti. Au fur et à mesure des premières et quasiment dernières élections primaires, on a vu qu'il y avait une part de ce parti républicain, 20 à 25%, qui ne voulait pas de Donald Trump. Simplement, ce n'est pas la position majoritaire dans ce parti. Ce parti, le Parti républicain, il a été en quelque sorte piraté au fil des ans, si vous voulez, par une nouvelle sorte d'électeurs, moins traditionnels, moins éduqués, il faut le dire aussi, qui ont pris le pouvoir dans le sillage de Donald Trump sur ce parti républicain. Alors, évidemment, est-ce que les gens qui ne voulaient pas voter Donald Trump aux primaires républicaines vont aller jusqu'au bout et voire voter contre lui au mois de novembre? C'est quand même un peu difficile de l'affirmer. Donald Trump, actuellement, il a quand même la main très ferme, très fermement, qui s'impose sur le Parti républicain.
Oui, alors, et on ne peut pas parler de Donald Trump et de sa campagne sans parler de ses nombreuses affaires avec la justice. Ah, ça n'était jamais arrivé dans l'histoire américaine qu'un ancien président soit inculpé, ne serait-ce qu'une fois. Et Donald Trump, lui, il est visé par 4 procédures pénales. Un des procès démarre lundi prochain, le 15 avril. Il concerne l'argent dissimulé versé à une ancienne actrice de X, l'affaire Stormy Daniels. Il y a aussi le procès sur son rôle dans l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021, qui lui avait été différé. Il était prévu début mars. Quelles sont les conséquences de ces affaires sur sa campagne, André Caspi ?
Bah, écoutez, les conséquences sont graves, puisque il est la victime, si l'on peut dire, de 91 chefs d'accusation et de 4 procès. Mais le procès le plus important, c'est celui qui porte sur son rôle dans l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Et ce procès-là a été reporté par les soins de la Cour suprême au moins jusqu'à la fin du mois de juin et sans doute dans le courant de l'été, ce qui veut dire que ça n'aura peut-être pas d'effet décisif sur les élections. Parce qu'au fond, beaucoup d'Américains sont déjà au courant de ce qu'a fait Donald Trump et des dénégations que Donald Trump affirme pour dire qu'il n'est pas responsable et qu'en somme, on l'accuse contre les faits d'avoir, d'avoir stimulé les manifestants du 6 janvier 2021. Donc, ça veut dire qu'il y a malgré tout au sein du Parti républicain une sorte de dichotomie entre ceux qui disent, comme votre correspondant l'a rappelé, que Donald Trump n'est pas le bon représentant du Parti républicain et ceux qui estiment que Donald Trump est la victime, en somme, de ses adversaires qui cherchent à le décrédibiliser, qui cherchent à l'écarter de la campagne électorale. Et c'est une des raisons pour lesquelles Donald Trump ne cesse pas d'aller d'un point à l'autre. Ça fait 4 ans qu'il mène campagne. C'est-à-dire que dès l'élection de Joe Biden en novembre 2020, il a contesté les résultats et considéré qu'on l'avait privé de la victoire et qu'en conséquence, Joe Biden est un président mal élu qui ne peut surtout pas être réélu.
Donc est-ce qu'on peut dire que ça lui sert aussi à construire son narratif, ces affaires judiciaires, justement en se positionnant en tant que victime d'une présidentielle volée?
Ah bah bien sûr, il joue là-dessus avec beaucoup de talent, si l'on peut dire, de talent oratoire. Encore une fois, il faut bien imaginer que cet homme est en campagne depuis 4 ans. Ça veut donc dire que depuis 4 ans, il ne cesse pas d'attaquer Joe Biden, il ne cesse pas de dénoncer ce qu'il considère comme les injustices du système électoral, comme la fraude, et qu'il veut en somme réparer les erreurs qui ont été commises depuis 2020 et qu'en conséquence, il a tous les droits, il a toutes les justifications pour parvenir à un deuxième mandat après ce mandat injustifié de la part de Joe Biden.
Alors Donald Trump, il a aussi une difficulté, une autre, c'est le sujet de l'avortement. Donald Trump, la semaine dernière, a fait une annonce qui n'a pas plu à ses partisans les plus conservateurs. Il a affirmé qu'il souhaitait laisser la main libre aux États américains pour légiférer sur l'avortement. Donc, a priori, il ne suit pas l'idée d'une interdiction à l'échelle nationale, contrairement à ce qu'il avait laissé entendre il y a quelques mois. Alors, il a bien conscience, en fait, qu'il ne peut pas suivre la ligne la plus conservatrice, en fait, au risque de se mettre à lui-même des bâtons dans les roues pour la présidentielle, André Caspi.
Oui, alors il faut bien comprendre comment se pose le problème de l'avortement aux États-Unis. C'est-à-dire que depuis 1973, la Cour suprême avait rendu un arrêt suivant lequel l'avortement était légal. Il s'agissait simplement de définir le nombre de semaines au-delà desquelles l'avortement ne pourrait plus être pratiqué. Et puis entre 2017 et 2020, Donald Trump a désigné à la Cour suprême 3 nouveaux juges, 3 sur 9, et la nouvelle majorité à la Cour suprême a annulé l'arrêt Roe contre Wade de 1973. Mais attention, la Cour suprême n'a pas interdit l'avortement. Elle a demandé à chacun des États de décider à l'intérieur des frontières de chacun des États ce que serait sa législation sur l'avortement. Alors, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a, si je ne me trompe, 17 États aux États-Unis qui interdisent l'avortement et les autres États définissent l'avortement suivant le nombre de semaines, qui peut aller jusqu'à 23 ou 24 semaines après la conception. Ce qui veut donc dire qu'il y a un grand débat aux États-Unis pour savoir ce qu'il faut faire de l'avortement. Alors Donald Trump, devant cette difficulté, s'est dit, bah écoutez, moi je peux en effet me vanter d'avoir été à l'origine de la suppression de l'arrêt de la Cour suprême, mais d'un autre côté, ça le prive d'un certain nombre de voix. C'est pour cela qu'il a tout bêtement, si l'on peut dire, décidé de mentionner que désormais, ce sont les États, chacun d'entre eux, qui doivent décider ce que sera l'avortement et dans quelles limites il pourrait éventuellement être pratiqué. Et évidemment, cette position ne plaît pas aux adversaires de l'avortement, et elle ne satisfait pas non plus vraiment les partisans de l'avortement. Ce qui veut dire que Donald Trump s'est mis dans une situation où il n'a pas fait de nouveaux adeptes, mais où il a au contraire montré un certain embarras, une confusion dans sa propagande électorale. Et c'est peut-être quelque chose qui lui nuit dans certains États, c'est-à-dire notamment dans ce qu'on appelle les swing states, c'est-à-dire
oui, les États charnières,
qui peuvent passer
pivot, oui.
D'une majorité démocrate à une majorité républicaine ou vice-versa.
Et justement, Joe Biden, lui, il n'est pas passé à côté de cet embarras. Il a même dit que Donald Trump s'était empêtré sur le sujet. Alors lui, il en profite, il capitalise sur la protection du droit à l'avortement. Il veut la rétablir au niveau fédéral. C'est bien ça, Guillaume Nodin?
Oui, c'est la promesse de Joe Biden qui explique aux électeurs que s'il l'élise et s'il lui envoie une majorité suffisante, ce qui sera déjà très difficile au mois de novembre, eh bien, il rétablira le droit à l'avortement pour l'ensemble des États-Unis avec une loi qui rétablirait les principes de l'arrêt Roe v. Wade dont parlait André Caspi il y a quelques instants. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les démocrates considèrent et je prends une image qui peut-être ne vous parlera pas tellement à vous, Sophie, mais peut-être davantage à André Caspi, qui considère que l'avortement, c'est la kryptonite des républicains. Vous connaissez la kryptonite, peut-être, je ne sais pas.
Oui, oui.
C'est les fragments de la planète de Superman, et quand il est en présence desquels, il est totalement affaibli. C'est un problème politique important pour les républicains, ce problème de l'avortement. Parce que, eh bien, il y a eu depuis la fin de l'arrêt Roe v. Wade, depuis l'arrêt Dobbs, donc il y a pratiquement 2 ans, une série d'élections, de référendums locaux aux États-Unis, dans différents États, y compris les plus conservateurs, mettaient la question de l'avortement en avant, l'autorisation ou la légalité de l'avortement. Et dans les États, y compris les plus conservateurs, comme le Kansas par exemple, à chaque fois, ça a déclenché une mobilisation des partisans du droit à l'interruption volontaire de grossesse. Et je crois que je peux le dire, dans 100% des cas, le droit à l'avortement, que ce soit pour des référendums locaux ou quand c'était en jeu pour des élections locales, comme par exemple les élections de la législature du Parlement en Virginie très récemment, à chaque fois, les partisans de l'interruption volontaire de grossesse ont réussi à faire passer leurs idées. C'est un sujet perdant pour les républicains jusqu'à présent, cette question de l'avortement. Et en plus, il est question, l'idée des démocrates, c'est d'essayer de le mettre au sujet de la campagne au mois de novembre pour justement mobiliser un électorat qui pourrait, dans les États clés, et notamment, on l'a vu très récemment en Arizona, faire perdre tout simplement l'élection dans des États pivots à Donald Trump.
Une stratégie du camp démocrate donc, et de Joe Biden qui, lui, de son côté, a aussi plusieurs épines dans le pied. La première, c'est son âge, 81 ans, on en parlait André Caspi un peu plus tôt, alors que Donald Trump, il n'est pas beaucoup plus jeune, il a 77 ans, tous les deux, ce sont les deux plus vieux candidats de l'histoire à la présidentielle américaine. Mais c'est une question qui se pose quasi uniquement pour Joe Biden. André Caspi, on n'entend pas tellement parler vis-à-vis de Trump.
Non, c'est vrai. Mais d'un autre côté, ce qui est quand même curieux, c'est qu'auparavant, le plus vieux président des États-Unis, c'était Ronald Reagan. Et Ronald Reagan avait été élu à 69 ans et on considérait que c'était déjà un âge très avancé pour occuper la Maison-Blanche. D'ailleurs, Ronald Reagan, qui ne manquait pas d'humour, avait plaisanté sur son âge à différentes reprises, y compris d'ailleurs lorsqu'il s'est présenté pour la deuxième fois, c'est-à-dire en 1984. Mais ce qui est important, c'est en effet que l'âge de Trump ne fait pas véritablement débat. Alors, ce qui fait débat chez Biden, c'est non seulement son âge, mais aussi l'image qu'il donne, les erreurs erreurs qu'il commet dans le langage, la démarche difficile qu'il affiche lorsqu'il marche, par exemple, lorsqu'il descend de la passerelle d'un avion. Tout cela, en somme, montre un homme qui est fragile, compte tenu de son âge. Au fond, on peut avoir 81 ans et être en pleine forme, et on peut aussi avoir 77 ans et puis être en position beaucoup plus faible. Donc, si vous voulez, l'âge compte, mais ça nuit davantage à Biden qu'à Trump, et Trump apparaît au contraire comme un homme dynamique qui n'hésite pas à prendre l'avion, à se déplacer, à tenir meeting, à parler, à tenir en somme un rôle extrêmement important dans la vie politique des États-Unis depuis qu'il a été écarté de la présidence, et même d'ailleurs avant d'être écarté de la présidence, c'est-à-dire qu'il continue en somme à manifester son dynamisme, alors qu'au contraire, Joe Biden ne cesse d'afficher malgré lui une faiblesse physique et intellectuelle qui inquiète tout particulièrement ses électeurs.
Et une autre épine dans le pied de Joe Biden est pas des moindres, c'est le dossier du Moyen-Orient, le conflit à Gaza notamment. De nombreux électeurs démocrates se disent choqués par le soutien systématique de leur pays Israël. Ils l'ont fait savoir en manifestant et aussi par leur vote à la primaire démocrate dans le Michigan ou le Wisconsin. On a entendu parler de ces votes uncommitted, c'est-à-dire non engagés. Alors depuis, l'administration insiste davantage sur la protection des civils palestiniens, sur l'aide humanitaire, affiche de plus en plus ses désaccords avec le gouvernement israélien. Ce mercredi, par exemple, Joe Biden a eu des mots forts. Il a dit que le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, faisait une erreur à Gaza et qu'Israël devait avancer sur la question du cessez-le-feu. Est-ce que c'est le signe qu'il a compris l'enjeu, Guillaume Nodin ?
Il semblerait que le message qui a été envoyé par les électeurs, notamment du Michigan et du Wisconsin, a été reçu par la Maison-Blanche, parce qu'avant, elle ne percevait pas exactement l'importance de la chose. Mais le Michigan, c'est l'un des États clés et que Joe Biden a gagné avec quelques dizaines de milliers de voix d'avance en 2020. Et bien, il se trouve qu'il y a une forte communauté américaine d'origine arabo-musulmane au Michigan. Il se trouve que j'étais en fin de semaine dernière à Dearborn, qui historiquement est la ville de Ford. On y trouve le siège de Ford, il y a une bibliothèque Ford, un musée Ford, une route Ford, des écoles Ford. Et quand on arrive au centre-ville, absolument, eh bien, c'est une ville qui est très majoritairement arabo-américaine. Et je peux vous dire que les gens que j'ai rencontrés là-bas à Dearborn, dans le Michigan, ils sont conscients du poids qu'ils auront pour l'élection en novembre et ils sont très remonté par rapport à la politique de Joe Biden au Moyen-Orient. Pour eux, les divergences qu'il affiche avec Israël, eh bien, c'est du théâtre, parce que dans le fond, il continue à soutenir Israël de manière de manière absolue, par exemple en continuant à à envoyer à Israël des armes pour pouvoir se défendre face à l'agression du Hamas qui a eu lieu le 7 octobre dernier.
Et André Caspi, je voulais réagir rapidement.
Eh bien, écoutez, je ferais simplement remarquer que Dearborn, en effet, est un centre pour la population arabo-musulmane qui vit aux États-Unis et qui représente aujourd'hui environ 5 à 6 millions d'individus. C'est-à-dire que ce n'est pas négligeable. Mais d'autre part, Dearborn a toujours eu une tradition antisémite parce que c'est là, en effet, que se trouvaient le quartier général d'Henry Ford, et Henry Ford a été l'un des plus grands antisémites dans l'histoire des États-Unis. Alors évidemment, Joe Biden est bien obligé de tenir compte de cela parce que ça fait partie de sa clientèle électorale, mais il ne faut pas oublier non plus que l'électorat démocrate n'est pas limité aux arabo-musulmans et que n'importe comment les arabo-musulmans, s'ils ne votent pas pour Joe Biden, voteront sans doute pour un autre candidat ou ne voteront pas.
Et malheureusement, je dois m'arrêter là. Je dois vous arrêter là puisque ce décryptage touche à sa fin. Je vous remercie, André Caspi, d'avoir été notre invité, historien, spécialiste de l'histoire des États-Unis. Merci beaucoup à Guillaume Nodin, également envoyé spécial permanent à Washington.